Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Club 44, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour cette dernière conférence de la saison. Merci de nous avoir accompagnés, pour ceux qui sont venus plusieurs fois ou toutes les fois durant cette saison. Donc on termine avec cette soirée où nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal Roux qui nous parlera des adolescents. Mais avant de vous la présenter, je voulais vous annoncer en fait deux manifestations. L'une du Club 44, alors ce n'est pas une conférence, mais ce samedi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un salon de la jeunesse qui s'organise à l'usine électrique, qui est une sorte de manifestation pour la promotion de la lecture auprès des jeunes. Et ils nous ont demandé d'organiser un atelier de philosophie. Vous savez aussi que notre caverne de Philobaba, depuis un an, on organise tous les mercredis après-midi un atelier de philosophie pour les enfants. Et que là, c'est une session qui sera hors serre, qui ne sera pas ici, mais qui justement a pour objectif pour les enfants qui aimeraient essayer, pour les enfants qui aimeraient essayer une fois avant de s'engager peut-être pour trois mois, de tenter l'expérience. Alors si vous avez des enfants ou des enfants dans votre entourage qui seraient intéressés, c'est samedi 13 juin de 14h à 15h. C'est sans engagement, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous avez les informations sur notre programme du mois de juin. Et puis je vous engage aussi à prendre le nouveau programme Philobaba que vous trouverez à la sortie, qui annonce justement les horaires pour l'année prochaine, parce qu'on va continuer et reconduire d'expérience. Donc là, vous aurez toutes les informations. Je voulais aussi vous annoncer un autre événement qui n'est pas Club 44, mais dont on fait volontiers la promotion, qui s'appelle Poésie en chemin. Ça a lieu samedi aussi. Ce sont des lectures de poésie en ville de La Chaux-de-Fonds, réalisées par des lycéens du lycée Blaise Sandrard. Alors, je vous laisserai si jamais un petit dépliant, je crois qu'il doit y en avoir qui sont par là aussi, avec toutes les informations, mais je vous y encourage vivement. Ce sont des lycéens qui ont travaillé ces textes, qui ont travaillé avec des comédiens. Enfin voilà, je trouve que c'est beau de réenchanter une ville par la poésie, et je pense que c'est quelque chose qui va se reproduire, qu'on va refaire aussi, on va y collaborer un petit peu par la suite. Enfin voilà, je vous y encourage vivement. Mais venons-en à notre invité de ce soir, Pascal Roux, qui est psychologue et coach, qui est spécialisé dans l'accompagnement des adolescents et de leurs parents, en recourant notamment aux techniques du coaching et de la PNL. Et elle est d'ailleurs souvent sollicitée par les médias, et notamment la radio suisse romande. Je crois qu'elle a eu envie, après ses années d'expérience, de rassembler un petit peu tout ça, de le condenser. C'est pourquoi elle a produit et écrit un livre que vous trouverez à la sortie, et je remercie la Méridienne pour sa présence ce soir. Et voilà, là elle va nous livrer en tout cas une partie, parce qu'effectivement c'est un peu trop court, une heure de temps pour livrer l'ensemble de son ouvrage, mais en tout cas si vous avez envie de poursuivre, sans nul doute, vous aurez envie de poursuivre et d'aller plus loin. Donc voilà, si jamais l'ouvrage est en vente, à la sortie. Et je remercie une fois de plus Pascal Roux, et je suis ravie de clore cette saison par sa contribution. Merci beaucoup. Merci.
Alors, je vais juste brancher le PowerPoint, si j'y arrive. J'y arrive pas. Au secours.
Ça y est.
La technique.
Oui, merci.
Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour aborder le thème de l'adolescence. Effectivement, donc on va passer une heure ensemble où je vais plutôt aborder les aspects importants qui me paraissent dans la notion de l'adolescence. Qu'est-ce que l'adolescence? Quels sont les enjeux importants à l'adolescence? Et puis comment faire pour améliorer les relations entre nous adultes et plus spécifiquement les parents? Et puis ces adolescents qui nous paraissent un peu étranges parfois quand on les regarde comme ça. Donc je vais vous parler pendant une petite heure et puis après vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de poser des questions. Peut-être plus spécifiquement avec vos propres problématiques, avec vos jeunes ou avec d'autres. L'idée pour moi, donc, c'est qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez des questions, même pendant que je parle, n'hésitez pas. Je trouve intéressant d'être plutôt interactif. Si jamais vous ne m'entendez pas, dites-moi. Hein, d'accord ? Faites-moi du feedback si jamais vous ne m'entendez pas. Un petit topo peut-être sur qui je suis. Donc, c'est vrai que j'ai eu une présentation, donc c'est vrai que je suis psychologue, donc j'ai fait une formation de psychologie clinique à l'université. Et puis quand je suis sortie de cette université, après 6 années d'études sur mes bancs, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'en sais un paquet de trucs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je suis allée me former en PNL, donc programmation neurolinguistique, qui sont des outils en fait, de changement, hein, des outils de communication et des outils d'accompagnement des personnes. Et puis suite à ça, je suis allée me former en coaching, donc coaching adulte, parce qu'on ne parlait pas de coaching adolescent à ce moment-là. Donc je suis allée me former en coaching adulte, et puis mon premier job a été un job de psychologue scolaire. Donc je ne me suis pas retrouvée avec des adultes en face de moi, mais avec des jeunes. Et puis j'ai eu envie de tester ces outils que j'avais appris pour les adultes auprès de ces jeunes. Et je me suis rendu compte que non seulement ça marche bien, ça marche presque mieux avec les jeunes qu'avec les plus âgés. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis rendu compte qu'en fait, aux adolescents, on leur proposait soit de la thérapie, soit pas grand-chose. Donc l'idée, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes autrement qu'en travaillant sur ce qui ne va pas bien, mais plus sur qu'est-ce qu'ils veulent, comment faire pour faire encore mieux ce qu'ils font déjà bien, et les accompagner plus vers une orientation positive. Hein, la vie, c'est pas que des problèmes, même si parfois, eux viennent me voir avec les problèmes que leur pose la vie. Donc l'idée, pour moi, ça a été de développer ça, et puis j'ai accompagné des jeunes dans l'insertion professionnelle notamment, puisque j'étais engagée dans un CEMO, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Un CEMO, c'est un semestre de motivation, donc on accompagne les jeunes dans l'orientation professionnelle et l'insertion dans le monde du travail. Et puis, chemin faisant, je me suis retrouvée à faire des consultations avec des jeunes, et puis quand les jeunes ne voulaient pas venir en consultation, parce que ça arrive aussi, les parents m'ont dit, est-ce qu'on peut venir, même si lui ne veut pas venir? Et puis j'ai commencé à accompagner des parents qui étaient en difficulté, et avec l'idée de leur donner des pistes, hein, des outils qui leur permettraient d'être mieux avec leurs jeunes. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à faire donc, des consultations pour les ados, des consultations pour les parents, et qui m'a donné aussi envie de partager mon expérience et puis ce que j'avais appris dans cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Fabre. Monsieur Vandel, bonjour. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Donc je suis là avec vous ce soir pour rentrer plus spécifiquement dans le monde de l'adolescence. Et puis ma première question, c'est quand vous pensez adolescence, vous pensez quoi? Qu'est-ce qui vous vient?
Juste comme ça. Juste comme ça. Qu'est-ce qui vous vient?
Une période difficile.
Une période plus difficile.
Période plus difficile.
Juste un mot comme ça.
Besoin d'affirmation.
Changement.
Recherche d'autonomie.
Pardon? Incompréhension.
Affirmation.
Décalage. D'accord.
Silence.
Recherche d'autorité.
Conflit.
D'accord, merci pour tous ces partages. Mais au fond, l'adolescence, c'est quoi? Souvent, quand on parle d'adolescence, on parle de crise. D'abord, l'adolescence, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit « il est adolescent » ou « elle est adolescente » En fait, l'adolescence, ça commence, si vous regardez dans les définitions, ça commence par la puberté. Donc on définit le début de l'adolescence par la capacité à procréer. Et puis la fin de l'adolescence, comment est-ce qu'on la définit? On est vachement plus embêté avec ça. La fin de l'adolescence, figurez-vous que c'est la capacité à avoir des comportements responsables. Jolie définition, hein? Ce qui explique pourquoi nous sommes parfois des éternels adolescents, n'est-ce pas? Donc c'est la capacité à être autonome et avoir des comportements dits responsables. Donc autant on peut définir vraiment le début, autant que la fin, c'est déjà beaucoup plus complexe. L'adolescence, c'est essentiellement donc une transition. Hein. On passe de l'enfance à l'âge adulte. L'enfance, c'est la période où on est dépendant, où on ne peut survivre que si quelqu'un s'occupe de nous, que s'il y a quelqu'un qui subvient à nos besoins. Donc, l'enfance, c'est vraiment la notion de dépendance à quelqu'un où on a peu de choix. Hein, on est dans accepter les orientations que donnent les adultes autour. Et puis l'adulte, ben, on peut espérer qu'il fasse le plus possible ce qu'il aime. En tout cas, la notion de liberté, d'autonomie, d'indépendance, en tout cas dans un cadre défini qui est notre société. Donc l'adolescent, il se retrouve entre ces deux trucs-là, hein, qui est la dépendance et puis l'autonomie. C'est vachement compliqué, ça. C'est vachement compliqué parce qu'il se retrouve un pied en enfance. Ouais, mais moi, ce que j'aime faire, c'est m'éclater, me faire plaisir. J'ai pas envie des contraintes, ça m'ennuie. Et puis de l'autre côté, il y a, ouais, mais si tu veux être libre, il va aussi falloir accepter la responsabilité que ça engendre derrière. Donc il a un pied dans chaque partie, et puis il a des réactions qui sont tantôt des réactions d'enfant et tantôt des réactions d'adulte. Et nous, on est tous paumés parce qu'on ne sait jamais à comment il va réagir à une situation. Donc c'est une transition, c'est une crise. J'ai pris l'image de ce bloc. J'emprunte cette idée à une enseignante, une de mes profs de l'université, qui s'appelle Madame Mounari, et qui nous avait fait un cours absolument remarquable sur la notion du changement. Qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que la crise? Et en fait, elle a défini la crise en disant, au fond, un bloc de glace, s'il veut changer de forme sans perdre un bout de lui-même, comment il doit faire? Il doit fondre. Il ne peut changer de forme qu'en passant par la phase de liquéfaction. D'accord ? Donc en fait, la crise, c'est ça. C'est-à-dire, c'est je passe d'une forme à une autre en passant par un moment de liquéfaction. Et la liquéfaction, c'est pas très agréable. Quand vous y pensez comme ça, vous ne dites pas « chic, je vais me liquéfier ». D'accord ? C'est désagréable. C'est désagréable pourquoi ? Parce que l'être humain, fondamentalement, il n'aime pas le changement. Je ne sais pas si vous savez que notre corps, notre physiologie, elle est faite sur ce qu'on appelle l'homéostasie. Tout notre corps fonctionne pour garder l'équilibre à l'intérieur des cellules, garder l'équilibre à l'intérieur de nos organes. Donc le corps, il est construit pour ne pas bouger. Tout doit aller dans la même, rester dans la même forme. Donc quand nous, on doit changer, oh, c'est désagréable, c'est très très désagréable. Donc nous n'aimons pas le changement, nous ce que nous aimons c'est la stabilité, parce que le changement ça fait peur. Et là on se retrouve à l'adolescence dans un changement fondamental. Non seulement c'est un changement au niveau physiologique, c'est un changement au niveau psychologique, c'est un changement au niveau relationnel, donc tout bouge. Vous imaginez ça? Tout bouge. Donc tout change. Il n'y a plus de point de repère, il y a des trucs qu'on connaît encore, mais on ne sait pas si on s'y raccroche ou pas, puis il y a des trucs qu'on ne connaît pas, et puis il va falloir y aller. Donc c'est très inquiétant. Et en même temps, bien sûr que le changement, ça nous fait peur, mais au fond, quand ça nous permet d'aller d'un truc qui nous ennuie vers un truc qui va bien, c'est aussi agréable. C'est aussi pour ça qu'on change. C'est l'idée que ça sera mieux après, sinon on ne changerait pas. D'accord ? Donc, la crise d'adolescence, c'est ce moment où l'individu, qui était petit et qui devient grand, passe par la liquéfaction. Un déménagement. J'ai adoré cette image, j'avais envie de vous la mettre. Je trouve ça très très drôle. Pourquoi un déménagement? Je pense que vous avez tous déménagé au moins une fois dans votre vie. On peut imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans un déménagement? Madame a dit le bordel. Qu'est-ce qui se passe dans un déménagement? On quitte un lieu dans lequel on a vécu des choses fortes, souvent des choses positives, aussi des choses difficiles. Dans un lieu de vie, on ne vit pas que du bonheur. On avait des meubles qui étaient bien adaptés, qui avaient trouvé leur place dans l'environnement. Et puis on va vers un environnement qu'on a choisi, mais dont on ne sait pas encore très bien comment il va être défini. On ne sait pas si les meubles vont rentrer dans chacune des pièces. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on déménage? Première chose, on trie. D'accord? On va trier qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma prochaine vie, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je peux laisser? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas emmener? D'accord? Donc on va faire un tri. C'est ce que fait l'adolescent. C'est-à-dire, il va dire, mais au fond, qu'est-ce que je veux emmener dans ma prochaine vie ? Et je vais trier, enfin, l'adolescent va trier ce que ses parents lui ont raconté. Est-ce que ce que mes parents m'ont dit était vrai ? Est-ce que je crois la même chose ? Est-ce que j'ai envie de croire la même chose ? Est-ce que je pense comme eux que les choses sont importantes ? Ça, ce sont les valeurs. Hein. Est-ce que les valeurs de mes parents sont celles que j'ai envie, moi, d'adopter dans ma prochaine vie ? Donc, il commence par trier. Donc, il y a des trucs qu'ils jettent. Ça, les parents, ils n'aiment pas. Il y a des trucs qu'ils gardent. Là, en général, les parents, ils sont contents parce qu'ils se disent, chic, on a pu transmettre nos valeurs à notre enfant. Donc, ça, c'est très agréable. Et puis après, on arrive dans le nouvel appartement. Et alors là, il faut caser les meubles. Est-ce que ça va rentrer dans ce nouvel environnement ? Est-ce que ça va aller ? Puis on commence par mettre les choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on met les meubles dans un endroit, puis à l'usage, comme ça, on se rend compte que ça ne va pas. Donc on les modifie. Hein. Parfois, on les change encore. Donc l'adolescence, c'est ça. C'est cette idée de, d'abord, on trie. Après, on emmène avec soi. On réaménage. Et je ne sais pas si vous avez vécu donc ce déménagement, mais en général, on est à la fois excité à l'idée d'aller vers ce nouvel environnement, parce que ça présuppose une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Et on aime bien aussi, chose nouvelle, parfois. Donc à la fois excité, à la fois il faut faire un deuil du lieu de vie qu'on abandonne, qu'on laisse derrière soi. Donc il y a aussi cette idée de ben, « je laisse mon enfance ». Je laisse aussi les aspects positifs de mon enfance, comme on peut laisser, je sais pas, dans l'ancien appartement, vous aviez beaucoup de lumière, un peu moins dans le suivant. Bon, ben, je fais le deuil de ça. Et l'enfant, il fait ça. Enfin, l'adolescent fait ça. Donc, il fait le deuil d'un certain nombre de choses, et en même temps, il est excité par d'autres choses. Donc, émotionnellement, waouh ! Là aussi, ça chamboule. Ça va jusque-là ? Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont ambivalents. Vous savez ce que c'est l'ambivalence ? Ouais. Vous connaissez, vous ? Non, pas vous. Non. Eux dehors. L'ambivalence, on est tous embarqués dans ces trucs-là. L'ambivalence, c'est de vouloir une chose et son contraire en même temps. C'est fou, ça. Hein ? C'est d'avoir envie d'aller vers un endroit et puis d'avoir envie, en même temps, d'aller vers un autre. Et puis, comment on se dépatouille avec ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? Je vous rappelle que l'adolescence, c'est le début du choix. Hein ? C'est le début de la construction de la vie adulte et le début de la construction du choix assumé. Parce que si je me trompe maintenant dans mes choix, ben c'est moi qui paye, c'est plus mes parents. Vous voyez l'idée ? L'ambivalence, c'est ben, il faut que j'arrive à définir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi derrière chaque tiraillement comme ça. Il y a des valeurs, parfois des valeurs fortes. Hein. C'est est-ce que je choisis mes copains ou est-ce que je choisis ma famille ? Pas facile de répondre à cette question. Est-ce que je choisis de m'opposer ou est-ce que je choisis au contraire d'être en accord ? Et tout ça, l'adolescent, il le vit tout le temps, à chaque instant, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas eu tellement l'habitude de faire des choix. Souvent, les choix ont été bien dirigés. Ou en tout cas, il ne s'est pas trop posé la question. Il a suivi les copains, il a suivi ce qu'ont dit les parents, etc. Puis là, il faut choisir. Et ça nécessite de descendre à l'intérieur de soi et de dire, mais au fond, moi, je veux quoi ? De quoi j'ai envie ? Et là, fouf, il y a plein de trucs qui ressortent. Et des choses qui sont parfois contradictoires. Alors nous, adultes, on vit ça. Hein ? Vous vivez ça ? Ouais, hein ? D'accord. Donc on vit tous de l'ambivalence. Simplement, nous, on a appris à la gérer. Plus ou moins. D'accord ? Parce qu'avec l'expérience, on sait de mieux en mieux ce que l'on aime, ce qui va nous porter, ce qui est important pour nous dans la vie. Donc, en tout cas, l'expérience de choix nous permet de faire des choix plus facilement. Plus ou moins. Donc, à l'adolescence, il y a tout cet apprentissage-là d'accepter de faire des choix, d'accepter aussi de se tromper. Ça, c'est une chose très difficile. C'est difficile pour nous, c'est encore plus difficile pour eux, parce qu'ils sont sous le regard des parents, hein, et puis des copains, puis de plein d'autres gens. Et ça, c'est difficile. Donc, l'ambivalence, elle est accepter de faire des choix, accepter de se tromper. Il y a aussi cette pensée binaire, hein, qu'il n'y a qu'un seul choix possible. Si je me trompe... Donc c'est quelque chose qui est inhérent à l'adolescence, qui est inhérent à l'être humain, mais qui est particulier à l'adolescence parce qu'il y a ces premiers apprentissages. Ça va jusque-là ?
D'accord.
Alors, là encore, les problématiques spécifiques, ben, on les a aussi, nous. Hein. C'est des choses que nous vivons en tant qu'adultes, mais là encore, nous avons acquis une certaine expérience dans ces secteurs qui fait qu'on a un peu plus d'aisance. Mais au fond, ce qui revient le plus souvent, problème de communication. Qui a appris à communiquer ? Est-ce qu'on a appris à se parler, à rentrer en relation, à se dire des choses ? On apprend ça nulle part. On apprend sur le tas. On apprend au travers des expériences, on apprend au travers de la confrontation avec l'autre. Donc les adolescents, ils arrivent, ils communiquent, comme on dit, ils se parlent. Mais c'est étonnant, vous avez déjà entendu des adolescents parler ensemble ? C'est étonnant de voir à quel point, d'abord ils utilisent un langage qui est très particulier, mais à quel point souvent ils ne se comprennent pas, à quel point ils ne s'écoutent pas, à quel point, rien contre adolescents, je ne dis pas adulte, ado, à quel point la communication, au fond, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué de se comprendre. Parce qu'on n'utilise pas toujours les bons mots, parce qu'on utilise, on n'est pas dans la peau de l'autre, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'est pas toujours vigilant à ce qu'on dit, parce qu'il y a des émotions qui ressortent. Bref, la communication, c'est quelque chose de complexe. Et les ados, ils ne savent pas que c'est complexe. Pour eux, il y a une espèce de réalité, de vérité, qui est quand on dit quelque chose, l'autre doit le comprendre, point barre. Et s'il ne le comprend pas, c'est qu'il est bête, c'est qu'il ne l'écoute pas, c'est qu'il est méchant, c'est que... D'accord ? Donc cette idée d'apprendre à mieux communiquer avec l'autre, c'est une idée qui est complètement étrangère. Ça va ? La gestion des émotions, qu'est-ce que ça fait peur, ça ? Les émotions, à quoi ça sert ? Moi, c'est une question que je leur pose très régulièrement. C'est les émotions, au fond, ça sert à quoi ? Alors, la première chose qu'ils font en général, c'est me regarder comme ça en disant « Ah bon, ça sert à un truc ?» À part me déranger, mais moi, je n'ai pas envie de ressentir les choses. Et de les faire imaginer qu'au fond, les émotions, c'est utile... Ça, c'est un truc extraordinaire. J'adore aborder ce thème-là parce que tout d'un coup, ça leur ouvre un monde. Les ados, les adultes, ont subi souvent nos émotions. J'étais à une conférence de Thomas d'Ansembourg hier, qui est à Neuchâtel ce soir. Je vous remercie d'être là, d'ailleurs. qui disait à quel point les émotions, on a tellement appris à s'en couper parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et au fond, les adolescents sont envahis par tout plein de choses. Vous savez, les enfants, ils les vivent, les émotions. Ils ne réfléchissent pas. Quand ils ont de la joie, ils hurlent de joie. Quand ils sont en colère, ils tapent. Ils ne réfléchissent pas de savoir est-ce que ça va déranger. Mais l'éducation, l'école, les adultes, la société font que, globalement, on dit « fais pas trop de bruit ». Et Thomas d'Ansembourg hier qui disait, mais quand quelqu'un est très joyeux, on très régulièrement lui dit, la vie, c'est pas si drôle. Hein. D'accord ? Donc, on réduit les émotions. Il ne faut pas exprimer ce qu'on ressent. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Il ne faut pas que ça dépasse. D'accord ? Et très vite dans l'éducation, et on peut comprendre, enfin, je veux dire, si tout le monde commence à hurler en classe, d'ailleurs, c'est les difficultés des enseignants souvent. Si tout le monde commence à exprimer ce qu'il ressent à tout instant, on ne s'en sort plus. Donc il y a aussi cette idée d'arriver à vivre ensemble. Donc l'expression des émotions, elle doit aussi s'apprivoiser. Mais comme on n'apprend pas à apprivoiser ses émotions, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en coupe. Donc les adolescents sont envahis par tout plein de trucs, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et surtout, ils ne savent pas les utiliser pour être heureux, eux. Vous savez à quoi ça sert, une émotion ? Lisez mon livre. Quatre familles d'émotions, colère, peur, tristesse, joie. D'accord ? Chaque fois que nous avons de la joie, c'est que ce que nous vivons est positif pour nous et nous oriente vers des choses qui nous apportent du bonheur. Donc la joie est l'indication que ce que je suis en train de faire est bonne pour moi. La tristesse, j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un, parfois des rêves. La colère, c'est une règle du jeu qui n'est pas respectée. Quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas dans ma représentation. Je me sens en colère. Et la peur, c'est l'indicateur du danger. D'accord ? C'est notre chien de garde intérieur. Ouh, ouh, ça fait. D'accord ? Si on n'avait pas ces émotions, comment ferions-nous ? Je dis souvent aux jeunes, mais on serait tous morts. Parce que si nous n'avions pas peur, on ferait n'importe quoi. Donc, apprendre à gérer ces émotions, c'est apprendre à les accueillir pour leur donner du sens et pour ensuite poser des actions. Mais tant que je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas quoi en faire. Et surtout, je ne peux pas les utiliser pour m'orienter. Et ça, c'est une chose qui je ne sais pas comment dire, c'est une découverte pour les jeunes. Ça leur ouvre les champs du possible qui est extraordinaire. La confiance en soi, problématique majeure. Problématique majeure, parce que c'est une problématique humaine, là aussi. On a tous des déficits de confiance, d'estime et d'affirmation de soi. On a de la peine à avoir une totale confiance en soi. On a des images de soi qui ne sont pas très positives, et puis parfois on a du mal à agir. D'accord ? Donc c'est des trois secteurs qu'il est important de développer à l'adolescence, justement pour pouvoir agir. L'objectif, en tout cas dans ma vision à moi, c'est de permettre à ces jeunes d'aller vers plus d'actions qui leur permettront d'être heureux. Donc c'est un thème que je ne vais pas aborder maintenant parce qu'il est riche, donc complexe, mais c'est vrai que c'est une problématique qui revient très régulièrement et qui se travaille bien en permettant aux jeunes justement d'agir. Le positionnement, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'adolescence, c'est une transition. Donc on passe d'un rôle d'enfant à un rôle d'adulte, et puis faut se positionner à l'intérieur de ça. Il faut définir, au fond, je suis qui ? Je veux quoi ? Et ces positionnements, ils sont liés à la fois à une identité de qui je suis, mais aussi quel rôle je vais avoir, quel type de relation je vais entretenir et je vais créer avec les autres. Donc c'est une question qui est compliquée. Et qui occupe en fait toute une vie. Je crois qu'on apprend à se positionner tout le temps et on redéfinit ses positionnements. Mais à l'adolescence, on part, j'allais dire presque de zéro. Pas que l'être n'existe pas avant l'adolescence, l'être est déjà là. Mais le positionnement qui va vers l'affirmation de soi, ça commence à l'adolescence. Même si l'enfant, on sait qu'il est là, il n'y a pas de doute. Mais là, il y a un choix. Ça va ? Vous êtes venu pour ça, non ? Laquelle vous voulez ? Comment on fait pour aider les jeunes ? Qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit toute personne. Cela dit, ce que je vais vous dire, c'est aussi valable pour les adultes. Dans les équipes, dans le couple, au travail, avec les amis, bref, tout ça, ce sont des règles humaines, encore une fois. Ce qui va permettre d'améliorer la relation avec son ado, parce qu'au fond, souvent, ce qui est problématique avec le jeune, c'est le lien. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord, parce qu'on aurait envie qu'il aille là-bas, puis il va là. Du coup, les conflits, les difficultés, les déceptions parfois, font que globalement, ça va finir par casser la relation. Et la communication dont on a parlé tout à l'heure, au fond, elle sert à une chose, c'est à créer un lien avec l'autre. Comment on fait pour améliorer le lien avec une personne et avec son adolescent en particulier ? Eh bien, l'écoute, vous savez ce truc-là ? C'est quoi l'écoute ? Prendre
je
du
pense
temps.
Que c'est surtout prendre du temps pour s'arrêter et puis justement porter un regard et une oreille. Voilà.
Prendre le temps, oui. Accorder de l'attention. Être là, oui. La présence. Ouais. Essayer de comprendre. Ouais. L'écoute, vous l'avez bien compris, hein, c'est pas seulement donner une oreille, c'est pas seulement capter des mots, c'est capter toute une intention. C'est capter l'autre dans ce qu'il est en train de dire. Comme on a vu dans la communication, c'est pas parce qu'une personne utilise un mot que ça veut dire la même chose pour moi. Et la véritable écoute, en fait, elle va commencer par ça. C'est-à-dire, c'est faire le vide à l'intérieur de moi pour accueillir l'autre. Je faisais un atelier la semaine dernière avec des parents qui me disaient « mais on n'a pas le temps dans la vie de tous les jours. C'est difficile d'être à l'écoute, d'être disponible, etc. » Puis je leur ai fait faire un petit exercice d'écoute hein, qui dure 5 minutes. Ils doivent écouter. L'un doit raconter une histoire pendant 5 minutes que l'autre doit écouter. Et ensuite, l'autre doit restituer l'histoire. Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que 5 minutes, c'est juste énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire en 5 minutes ? C'est incroyable ce qu'on peut dire en 5 minutes. Et au fond, 5 minutes dans une journée, on en a tous. D'accord ? Donc, accueillir l'autre, lui offrir cet espace, 5 minutes, au fond, ça vous paraît difficile ? Je pense que le temps, hein, c'est une façon aussi de justifier parfois, zéro critique dans ce que je suis en train de dire, mais de parfois de justifier cette disponibilité que l'on n'a pas. Mais au fond, cette volonté d'accueillir et d'écouter l'autre, ça prend 5 minutes par jour. Rien qu'avec 5 minutes, vous allez voir, votre gamin, il vous raconte déjà une histoire incroyable en 5 minutes. Mais pour ça, c'est accueillir. Ça veut dire hein, offrir un espace. On n'écoute pas qu'avec son oreille, on écoute avec qui on est, avec tout son être. Et cette disponibilité-là va faire toute la différence parce que c'est mieux. Enfin, ça va être important pour la personne. Puis on a tous vécu des expériences où on ne s'est pas senti écouté. Enfin, j'imagine. Ouais. Je pense qu'on a tous dit au moins une fois : tu m'écoutes pas. Il me semble. D'accord ? Sentez ça. Ce besoin que nous avons juste de se sentir écouté. Et ça, ça nécessite justement d'ouvrir cet espace. Parfois, on veut tout de suite y aller avec du commentaire. Ah, mais oui, mais tu devrais. Non, 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 non. Écouter. Pas donner des conseils, juste être à l'écoute. Ah, ce que tu as vécu aujourd'hui, c'était difficile. Ça fait toute la différence. L'écoute sans jugement. C'est-à-dire sans évaluation de ce que tu me racontes, c'est une bêtise, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Ça, ce n'est pas de l'écoute. Hein. La véritable écoute, elle n'attend rien, elle est juste un cadeau. Que ce soit à votre enfant, à votre compagnon, compagne, collègue. D'accord ? C'est juste accueillir ce qu'il a à dire, sans commentaire, juste en disant bah, « je t'écoute ». C'est un magnifique cadeau. 5 minutes. La valorisation. La valorisation, ça porte un terme technique en PNL, on appelle ça les marques d'attention. Et puis, en analyse transactionnelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces techniques, mais qui sont des techniques, entre autres, de communication, on appelle ça les signes de reconnaissance. C'est toutes les choses qu'on offre à l'autre et qui montrent qu'il existe. Un simple bonjour est un signe de reconnaissance. D'accord ? Si en faisant court, un signe de reconnaissance positif, c'est un compliment. D'accord ? Un signe de reconnaissance négatif, c'est une critique. Et en fait, on passe notre temps à critiquer. On critique tout. Tout, tout le monde, tout le temps, soi. Hein, on passe notre temps à dire « Oh là, c'est nul ça. Oh là là. Ah ça, c'est pas mal, mais alors, s'il y avait eu ça au mieux, ça aurait été mieux. » C'est difficile d'être dans le vrai compliment, dans la vraie valorisation. Or, si il y a bien un levier de motivation extraordinaire, c'est bien la valorisation. Parce qu'on a tous envie hein, qu'on nous dise que ce qu'on fait, c'est bien. Et les ados en premier. C'est aussi le pourvoyeur de confiance. Hein. c'est quand on nous dit que ce qu'on fait est bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas ça, hein. Juste. Souvent on me dit ouais, mais alors si je commence à faire des compliments à mon ado alors qu'il fait pas tout très bien, il va plus passer la porte tellement, d'accord, il va se la péter. Oui. Je pense que la véritable valorisation, elle va pas valoriser l'ego, parce que c'est l'ego qui fait qu'on passe plus dans la porte, mais elle va venir renforcer l'être qu'il y a derrière l'ego. Hein, l'ego, c'est la façade, l'être au fond qu'il y a derrière. Mais il a besoin de recevoir ces signes de reconnaissance. Il y a un chiffre que j'adore et qui en général fait pouf, c'est il faut 10 signes de reconnaissance positifs pour 1 négatif. C'est le même poids, c'est-à-dire quand vous faites une critique, ben si vous vouliez la compenser en termes de poids, il faudrait faire 10 compliments. Ça vous donne une idée de nos déficits à chacun ? Et ça, si vous apprenez à utiliser les signes de reconnaissance avec vos enfants, avec vos collègues, avec à l'intérieur de votre couple, vous allez voir, c'est juste magnifique. Non seulement c'est magnifique parce que ça aussi c'est un cadeau. C'est comme l'écoute. Quand vous dites à quelqu'un ce que tu fais, c'est bien, mais offrir ça, c'est un cadeau extraordinaire. Non seulement vous faites plaisir à vous, mais à lui, là, ça fait... Vous savez, ce truc qui remplit là et qui fait que, waouh, je vais pouvoir agir parce que je me sens bien, parce que je me sens en confiance. D'accord ? Je vous ai dit les émotions. Hein. Donc c'est vrai qu'il y en a 4. Il y a 4 familles d'émotions, mais au fond, on ressent plein d'autres choses. Hein. Il y a plein de ressentis différents. Qui sont des déclinaisons de ces, ou la, on appelle ça des émotions complexes. Pourquoi est-ce qu'on tient, en tenant compte des émotions, on crée un lien de qualité ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes en colère, par exemple, et que vous rentrez en relation avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? On l'agresse. Le ton monte, ça crée du conflit, on va l'agresser. On se ferme. Globalement, ça coupe le lien. D'accord ? Si je le sais, si je sais que quand j'ai des émotions négatives fortes, hein, ben ça, je prends le risque de me couper de l'autre dans ma communication, et ben je peux apprendre à gérer différemment la communication et donc la relation. Hein, quand je vous disais, par rapport à ces 4 émotions, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à l'autre... Je suis en colère parce que tu. Parce que tu n'as pas fait ceci, parce que je t'avais dit cela et que tu n'as pas tenu compte d'eux, etc. Tu. C'est Salomé qui dit éviter le tu qui tue. Donc, une des idées dans la communication, c'est de dire au fond, mes émotions, elles m'appartiennent. Nous, on passe notre temps à les balancer sur l'autre en disant c'est de ta faute si. D'accord ? Or, l'émotion, elle est un indicateur de ce que moi, je vis et qui va me permettre de rectifier dans ma relation avec l'autre. Donc, si je suis en colère, je peux dire à l'autre, je suis en colère. Mais je suis en colère parce qu'une règle du jeu n'a pas été respectée. Je réénonce la règle, pas ma colère. Qu'est-ce qui peut en faire l'autre de ma colère ? Rien. Donc, l'idée pour créer un lien de qualité, c'est d'apprendre à garder ses émotions comme un indicateur personnel et ensuite de faire une demande à l'autre et d'éviter de balancer dans ma relation toutes les émotions dites négatives ou désagréables, disons. Donc, tenir compte des émotions permet d'améliorer la communication et la relation. L'authenticité, j'ai cherché un moment pour le schéma, pour le dessin. Je sais pas, l'authenticité est difficile à illustrer. J'ai choisi ça parce que l'authenticité, pour moi, c'est la notion d'alignement. Carl Rogers, qui est un grand psychologue, a parlé de ce qu'on appelle la congruence. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Non ? Congruence. Congruence, c'est le fait d'être aligné entre sa pensée, ce que l'on dit, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Simple comme concept. Hein. hyper simple comme concept. Combien de fois on a la tête d'un côté, l'émotion de l'autre, puis alors on fait encore un truc différent. Très difficile de rester authentique. Des fois on dit oui, oui. Hein, ça veut déjà arriver ? On dit oui, oui, je veux bien faire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez au fond. Quand un jeune vous dit ouais, ouais, je veux m'occuper de ça. Interrogez-vous sur est-ce qu'il va le faire. Ça vaut le coup. On parle aussi en PNL du oui physiologique, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit oui, un vrai oui, ça se voit. Ça ne s'entend pas, enfin si, ça s'entend aussi, mais surtout ça se voit. Et l'authenticité, c'est ça. Rappelez-vous que la communication, 90% du message, enfin 90% de la communication passe par le non-verbal. Du pourcent pour le message. Donc, s'il y a un écart entre les mots que vous dites et ce que vous montrez, on va croire ce que vous montrez. D'où l'importance de l'authenticité. Vous me suivez ? En théorie. Ça va, c'est clair ce que je vous raconte ? Ouais ? D'accord. L'authenticité, c'est est-ce que ce que je dis correspond à ce que je pense, à ce que je sens et à ce que je vais faire ? Il y a les accords Toltec, ça vous dit quelque chose, ça ? Il y a un des accords Toltec, je vous laisserai voir, si ça vous intéresse, allez voir plus loin. Mais un des accords Toltec dit « marche ta parole ». Je trouve jolie cette image, de marcher sa parole. C'est d'aligner ses actes sur ce que je raconte. Chose compliquée dans la vie de tous les jours. Mais au fond, si j'aligne ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, bah, plus de chances pour que ce soit cohérent et que le message que j'envoie à mon jeune, à mon ado, eh ben, il soit reçu 5 sur 5. Ça va ? Je vois des regards rêveurs. Hein. Un des deuxièmes, donc la première chose que j'avais envie de vous amener, c'est créer un lien de qualité. Le deuxième, c'est la notion d'équilibre systémique. L'équilibre systémique, ça c'est issu plutôt du coaching d'équipe et de l'animation de groupe en fait, et qui est cette idée que pour qu'il y ait de l'énergie dans une situation de groupe, et là quand on est en famille, on est dans une situation de groupe, il est important qu'il y ait un équilibre entre la loi et le lien. Le lien, on vient de le voir, hein, c'est la communication, c'est la relation, c'est les émotions, c'est parler de l'authenticité, hein, c'est tout ce qui crée, c'est les signes de reconnaissance, c'est tout ce qui va permettre de créer la relation avec l'autre. La loi, c'est tout ce qu'on déteste, parce que c'est ce qui limite, hein, c'est ce qui organise, c'est ce qui structure. La loi, c'est à quelle heure on mange, à quelle heure on rentre, c'est est-ce qu'on range sa chambre, c'est... quel jour on fait la lessive. Bref, c'est tout ce qui est de l'ordre des règles de structure et de fonctionnement dans une maison. Et au fond, ce qui est important pour qu'il y ait une bonne dynamique au sein de la famille, c'est qu'il y ait cet équilibre. C'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait autant de lois que de liens. Alors pendant des générations, nous avons eu beaucoup de lois, pas beaucoup de liens. D'accord ? Aujourd'hui, retour de bâton, il y a trop de liens et pas assez de lois. Donc on se retrouve dans des systèmes où les gamins, hein, ils supportent plus aucune limite parce que comme ils n'ont pas eu trop l'habitude d'en avoir, quand ils en reçoivent, c'est juste insupportable. Ils n'ont pas appris à gérer la frustration que représente la limite. Or la limite, c'est une structure. C'est ce qui permet de se construire. Si je n'ai pas de limite... J'ai une maman un jour qui m'a donné une image que j'ai trouvée extraordinaire. Elle me disait, mais mon fils, c'est un camembert. Et moi, je suis la boîte. Si j'enlève la boîte, il coule. J'ai trouvé ça magnifique. C'est exactement ça. C'est cette idée d'être la boîte du camembert, pour le tenir. S'il n'y a pas de boîte, il se répand. Souvent, on considère que la loi, c'est vraiment le truc barbare, genre, oh, mais on ne va pas mettre des limites quand même. Mais au fond, c'est structurant. Dans mon bouquin, j'utilise une image qui est les lumières, c'est la piste d'atterrissage. Heureusement qu'il y a des lumières sur les pistes d'atterrissage. Hein. C'est ce qui permet de s'orienter, de se diriger. L'autre idée, c'est imaginer qu'il y a pas de... s'il n'y avait pas de code de la route, ce serait compliqué la route. On ne pourrait pas fonctionner ensemble sans loi. Donc la loi, elle est structurante, elle est importante. Et au fond, c'est cet équilibre entre je crée du lien et je mets de la loi qui va permettre que ben, ça se passe bien. Alors ça ne veut pas dire que les gamins vont accepter la loi. Hein. Ils ont plutôt envie de faire ce qu'ils ont envie, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord, mais sur la distance, ça fait la différence. C'est ce qui va permettre à un jeune ben, de se structurer, d'être en sécurité. Quand il y a trop de liens, il y a de l'insécurité. Vous sentez ça ? C'est-à-dire, si je ne sais pas où je suis, si je ne sais pas comment être cadré, ben, j'ai peur. Et la peur déclenche des comportements inadéquats. Ça va ? Désolée, j'ai perdu une diapo. Je ne sais pas où elle est. Donc, petit 3. Donc, il y avait 1, créer un lien de qualité. 2, l'équilibre systémique. Petit 3, comment on gère les conflits ? Ah, oh, les conflits. Ça, c'est le truc hein, avec les jeunes. Eh bien, dans un conflit, en fait, pour qu'il y ait un conflit, il y a 3 ingrédients. C'est comme une recette de cuisine. D'abord, il faut avoir des idées opposées. D'accord ? Des opinions différentes. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord ? On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans forcément être en conflit avec cette personne. Vous êtes d'accord ou pas ? Ouais ? D'accord. Il faut aussi des émotions négatives fortes. On a vu tout à l'heure que dans la communication, hein, quand on vivait des choses difficiles, on avait tendance plutôt à... Ça monte, comme ça. Et à se couper de la relation. Donc le deuxième ingrédient, c'est des émotions négatives fortes. Et puis, j'aime beaucoup mon petit... Avoir des émotions négatives fortes et ne pas être d'accord ne génère pas encore du conflit. Ce qui va générer vraiment le conflit, c'est l'idée de « j'ai raison, tu as tort, et comme tu as tort, je vais te soumettre à ma raison. » Vous sentez ça ? Donc il y a cette idée de « je veux te soumettre, et tant que tu ne t'es pas soumis, ben, j'insiste. » Mais comme ça, c'est des deux côtés, ça monte. Ça vous fait une belle jambe. Hein ? Comment on fait pour changer un plat dans une recette de cuisine ? Eh bien, il suffit de changer un des ingrédients. En travaillant sur l'un des 3, ben, on peut arriver à gérer le conflit différemment. On peut ne pas avoir les mêmes opinions tout en respectant. Une des idées qui mène au conflit, c'est l'idée qu'il y a une vérité, avec un grand V. Une réalité, la mienne. Et que si l'autre ne voit pas la réalité telle que moi, c'est qu'il se trompe. Vous avez déjà imaginé ça ? Alors souvent, bon, j'ai pas là, mais souvent je demande à... Je montre à un jeune un stylo. Puis vous avez vu un stylo, selon l'angle dans lequel vous le mettez, ben, il n'a pas la même forme. Donc.
Puis je lui demande de me décrire son stylo à lui. Puis moi je lui dis mais...
Moi je ne vois pas ça. Puis je lui décris mon stylo. Et tout d'un coup il réalise que sa perception est une perception et que la mienne en est une autre. Et qu'au fond, qui a raison ? Tous les deux. L'idée de dire « mais ce que je perçois de la réalité, c'est la réalité avec un grand R » est une erreur. On la commet tous, hein, je vous rassure. À partir du moment où je sais que ce que je perçois comme étant vrai n'est qu'une partie de la réalité, ça permet déjà de dire « tiens, peut-être je pourrais m'intéresser à cette vision qu'a mon ado. Pourquoi lui dit ça ? Au fond, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ce qu'il est en train de dire. » Et souvent, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils disent. Et d'apprendre à s'enrichir de cette vision qui va venir compléter la mienne, ben ça change cette idée de « j'ai raison, tu as tort ». Ça va ? Oui ? Un conflit n'est pas que négatif. Non, vous allez voir que les conflits ne sont pas tous négatifs. Donc ça, c'était celle qu'il y avait juste avant. Hein. La diapositive, elle a bougé, désolée. Donc voilà, c'est l'illustration. Je reviens sur votre remarque. C'est l'illustration de la gestion des conflits. C'est-à-dire que tant qu'on tire chacun de son côté, ben, tout le monde perd. Alors, oui, le PowerPoint était un peu bougé, désolée, mais je pense qu'on peut lire. Il y a un présupposé, c'est une croyance. C'est ce que je crois va influencer ma manière de réagir et ma manière d'aborder la situation et les relations. Donc, si je crois que tout le monde m'en veut ou que je suis une pauvre petite chose qui ne s'en sortira jamais dans la vie, ça va influencer ma manière de rentrer en relation avec les gens et la manière de gérer les situations. Si je crois au contraire que, au fond, les gens sont plutôt gentils et que j'ai les moyens de réussir dans ma vie, ben, je ne vais pas poser les mêmes choix. Donc les présupposés, c'est des croyances que nous avons, au fond. Certaines sont positives, d'autres moins. Donc là, moi, je vous propose des croyances qui sont plus positives et qui permettent de gérer autrement les conflits. On disait que la communication, c'est quelque chose de compliqué. Donc je pense qu'on ne nous apprend pas globalement à communiquer. On apprend sur le tas avec les expériences, on tire des conclusions qui sont des conclusions liées au terrain. Bah, communiquer, c'est pas facile. Bah voilà. Communiquer, c'est pas facile et parfois on se comprend pas. Donc ça va générer des conflits, c'est pas grave. Après, c'est la répétition, la fréquence, l'intensité du conflit qui là peuvent poser problème. Que de temps en temps des désaccords. Ah oui, c'est normal, c'est la vie. Le conflit permet de se rencontrer dans sa différence. La communication, elle sert aussi à ça, c'est à percevoir la réalité de l'autre qui va venir enrichir la mienne. Et ben, le conflit, ben, c'est l'occasion de dire, bon, attends, on s'arrête là, on n'est pas d'accord. Donc puisqu'on n'est pas d'accord, explique-moi, toi, ta vision, c'est quoi ? Et là, on met au service son écoute, hein, cet accueil inconditionnel de ce que dit l'autre, avec zéro jugement, zéro critique. Et tout d'un coup, on peut percevoir cette réalité de l'autre qui va venir, une fois encore, enrichir la mienne. Et j'ai beaucoup aimé ce proverbe chinois qui dit « Quand deux personnes sont d'accord, une est de trop ». Je trouve que ça illustre tellement bien cette idée que bah ouais, le désaccord est une richesse extraordinaire. Un des présupposés que j'ai toujours trouvé magnifique, on réduit souvent les personnes à leur manière de se comporter. Et c'est encore plus vrai avec les jeunes. Quand ils ne travaillent pas à l'école, c'est un flemmard. Qu'est-ce que je peux l'entendre, ça ? C'est un flemmard. Alors qu'au fond, ne pas travailler à l'école, c'est un comportement. Être un flemmard, c'est une qualité, enfin, c'est une façon de qualifier l'autre. Là, au niveau de son être. Donc, parce qu'il se comporte comme ça, il est cela. Il se comporte de manière violente, il est violent. Combien de fois on réduit ? Mais les adultes aussi, hein ? On réduit une personne à son comportement. Mais si on fait ça, il n'y a plus de marge au changement. Ça veut dire que l'autre doit changer dans ce qu'il est, dans sa structure, dans son identité. C'est vachement compliqué, ça. Alors que si on dissocie la personne, donc qui est la personne, de ce qu'elle fait, alors on peut travailler sur le comportement tout en accueillant la personne de manière inconditionnelle. Et ça fait toute la différence. Quand vous dites à un jeune « mais vous êtes génial », simplement ce comportement, il est moyen. Vous croyez que ça se passe quoi ? Enfin, quelle est la différence par rapport à « t'es nul, t'as vu comment tu te comportes ? Enfin, t'as vu ce que tu fais ?» Et là, on sabre. Quand vous dites à un jeune, enfin, quand vous distinguez sa manière de se comporter de qui il est, vous lui offrez le changement. Parce que la personne peut changer son comportement de manière plus facile que sa structure. Ça va ? Apprenez à dissocier la personne de son comportement, c'est lui ouvrir la porte au changement. Et c'est encore plus important pour ses ados. Tout comportement a une intention positive. Alors là, en général, quoi ? Mais non. Tout comportement a une intention positive, même les comportements inadéquats. Si vous cherchez, alors vous pouvez vous arrêter à dire, je sais pas moi, il va plus à l'école, il est méchant, ou alors il est flemmard, par exemple, tous ces jugements que l'on peut poser comme ça. Mais si vous vous dites, au fond, qu'est-ce qu'il cherche ? S'il avait une intention positive dans ce qu'il est en train de faire, ce serait quoi ? Quand il est violent, agressif, désagréable, qui claque la porte, qui ne veut pas faire, veut pas mettre la table, qu'il ne veut pas ranger sa chambre, qu'il hurle sur sa petite sœur, etc., etc., qu'est-ce qu'il cherche ? Si vous cherchez l'intention positive du comportement, vous allez le trouver. La trouver. Si vous dites, de toute façon, il fait ça parce que c'est un méchant, vous le réduisez, là encore. L'idée après, c'est qu'une fois que vous avez capté l'intention positive du comportement, combinée avec le présupposé précédent, qui est, on peut dissocier la personne de son comportement et chercher l'intention positive du comportement pour, pour chercher d'autres manières de satisfaire ce besoin. Vous me suivez ? Donc, chercher l'intention positive, valoriser la personne et de dire, ok, tu as une intention positive, le comportement n'est pas adéquat, comment vas-tu faire pour faire autrement tout en continuant à cette intention positive ? Et là, vous lui donnez là encore la possibilité de changer en valorisant ce qu'il cherche. Donnez-moi un comportement que vous estimez inadéquat.
Pardon ? Il répond.
Genre, vous lui donnez un ordre, il vous répond. Il envoie péter. Donc, il envoie bouler. Donc, quel est 99% des pensées qui vous viennent quand il vous envoie bouler ? Père de gifle. Ouais. Quelle est l'interprétation que vous faites ? Qu'il n'est pas content. Qu'il n'est vraiment pas d'accord avec vous. D'accord ? Ouais. Ouais. Donc vous êtes déjà dans l'intention positive. C'est-à-dire que, au travers de « il m'envoie bouler », on peut percevoir derrière, soit il pourrait partir en claquant la porte en se taisant, mais au moins là, il répond. Donc ça, on peut imaginer qu'il continue à créer du lien. On peut aussi imaginer que ce que vous êtes en train de lui dire le dérange. Donc il exprime le fait que ça ne lui convient pas. C'est une expression. Ça peut être aussi une façon de vous dire, de se positionner. C'est-à-dire, c'est ben moi je me positionne, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord ? Alors oui, ça paraît... C'est-à-dire ? On monte au conflit ? L'idée après, c'est effectivement de négocier. Dans la gestion de conflit, après, il y a de la négociation. Ce que j'essaye de vous amener là par rapport au présupposé, c'est l'idée que quand on a des idées en arrière-plan, ce que nous croyons va influencer notre manière d'intervenir, d'agir. Donc, attention à ce que je crois qui va me permettre de modifier ma manière de rentrer en relation avec l'ado. Ça va ? Donc si je crois qu'il fait les choses pour m'embêter, je ne vais pas réagir de la même manière que si je me dis qu'il a une intention positive pour lui-même. Je n'ai pas dit que c'était facile. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Oui. Donc c'est toute la gestion, alors là, c'est ce qu'on, des émotions et de la frustration. C'est-à-dire, c'est, en tant qu'adulte, on apprend à gérer la frustration, c'est-à-dire à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait parce que derrière, soit pour éviter des ennuis, hein, si je fais pas, si je paye pas mes impôts, je vais avoir des problèmes. D'accord ? Donc je le fais pas parce que ça me fait plaisir, mais je le fais parce que sinon, je vais avoir des conséquences négatives. Pourquoi ça vous fait rigoler ? Donc l'idée, c'est, en tant qu'adulte, nous avons appris à gérer nos frustrations dans la conscience des choses que ça va nous permettre d'avoir, soit plus tard, soit éviter des problèmes. Les adolescents, eux, ils sont plus dans le « non ». Oui, j'ai pas envie. Mais ils ont le droit de pas avoir envie. Et c'est important. Absolument. Absolument. Ça pourrait être intéressant de tester. Il y a des parents qui ont fait ça. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai une maman un jour qui m'a raconté, moi je fais plus que ma lessive et mon repas. Mais ça, ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce que l'ado, au bout d'un moment, il dit bon, d'accord. Enfin, le sien. Le sien. Après, je ne voudrais pas faire de généralité. Mais ça peut être intéressant aussi, à un moment donné, de leur faire vivre ce que... Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un apprentissage. Mais oui, mais il faut l'apprendre. C'est comme une langue. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas apprendre le russe en une journée. Ben, c'est pareil pour la gestion de la frustration. C'est quelque chose qui s'apprend sur la distance. Mais je comprends bien, hein, votre désir. Enfin, je comprends bien. C'est long. Je vous confirme, c'est long. Et même aujourd'hui, hein, je ne sais pas vous, mais moi, de temps en temps, la gestion de la frustration, j'ai de la peine. Hein. Hein, quand il y a des trucs qui ne viennent pas tout de suite. Ben oui. On en revient à l'équilibre systémique dont je parlais, c'est-à-dire que pendant des générations, on n'a pas demandé aux enfants ce qu'ils voulaient. C'était comme ça, point barre. Donc on était dans l'excès de loi, hein, et les enfants étaient dans la soumission. Pas non plus ce qu'on souhaite, puisque globalement, ce n'est pas ce qui permet de développer un bien-être. Après, il faut travailler un moment avant de se sentir bien dans ses baskets. Donc la soumission n'est pas une bonne idée non plus. Mais on est allé dans l'excès inverse aujourd'hui. Et du coup, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, j'ai pas envie. Parce qu'on est allé trop loin dans le lien. Donc cette idée de rectification, hein, c'est comme un balancier. C'est-à-dire quand il y a eu trop de lois, ben, tout d'un coup on est dans trop de liens. Puis ben, s'ils pouvaient revenir un peu plus au centre, ce serait une bonne idée. Donc tout comportement a une intention positive. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout et n'importe quoi de mon ado. Ça veut simplement dire qu'en m'interrogeant sur qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, ben, ça ne me met pas dans la même position que quand je me dis qu'elle est con. Excusez-moi, c'est un peu brut de fonderie, mais quand on est fâché, c'est souvent ce qui vient. D'accord ? Donc en cherchant l'intention positive, ben, on peut trouver des choses intéressantes et valoriser cette intention positive. Rappelez-vous, la valorisation, ça permet aussi de créer un lien de qualité. Le positionnement intérieur du parent, là aussi, il va faire la différence. Hein. Quand je parle d'autorité, la différence entre l'autorité et l'autoritarisme.
Quelle différence ?
J'ai vachement...
Pardon ? La dictature.
L'autorité pour l'autorité. Vous avez entendu ? Oui. tout à fait. C'est vraiment cette distinction-là. C'est-à-dire que dans l'autorité, il y a un objectif. L'autorité, c'est parler à partir de « je ». J'avais trouvé ça magnifique. Je ne sais pas qui a dit ça, ça m'a échappé. Mais l'autorité, c'est parler à partir de « je ». Donc, quand moi, en tant que parent, je dis « je », en énonçant des choses qui me paraissent importantes et des règles qui me paraissent importantes, je suis dans l'autorité. Si je cherche à soumettre, c'est cette distinction que vous faites, si je cherche à soumettre l'autre dans un rapport de force, je suis dans l'autoritarisme. Ça va ? Donc on avait parlé de l'écoute, je vous l'ai redit, parce que franchement c'est juste un outil fabuleux. C'est, l'écoute fait une différence incroyable. L'empathie, vous savez ce que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça veut dire capter ce qu'il cherche à dire et au fond l'essentiel de qui il est dans sa manière de s'exprimer. Donc l'écoute avec empathie, c'est j'enfile les baskets, quoi. Je me mets vraiment à sa place. Ce qui, dans les conflits, est un peu délicat parce que ça nécessite de se décentrer soi-même de sa propre colère, de sa propre frustration. C'est de, vraiment, je change de place, je change de chaise. Et je me mets dans la chaise de l'autre. Les signes de reconnaissance, ça c'est même dans le conflit, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais dire j'entends ce que tu dis, et dans ce que tu dis, il y a des choses qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout, mais vous pouvez aussi trouver des choses qui sont intéressantes dans ce qui est dit. Et le valoriser va permettre à l'adolescent de ouvrir. Les émotions comme indicateur, tout ça je vous l'ai déjà dit, mais ça me paraît important. Que vous compreniez que ce ne sont pas seulement des concepts, ce sont aussi des outils. L'émotion que je ressens va faire une différence. Si j'ai peur, ce n'est pas la même chose que si je suis triste. D'accord ? Et utiliser l'émotion dans laquelle je suis va me permettre de gérer différemment la situation conflictuelle. Le dernier point concerne la notion d'intention positive du comportement. Derrière chaque comportement inadéquat, il y a un besoin. Donc si j'accueille le besoin, ça me permet aussi d'ouvrir, de dire, mais au fond, ce dont tu as besoin dans cette situation, c'est. Et d'accueillir ce besoin, de le valoriser, va permettre de négocier, de dire, bon, ok, tu as besoin de voir tes amis parce que c'est important pour toi et de partager des choses avec eux. Ok, je comprends. C'est un besoin important. Vous sentez ça ? De capter le besoin qu'il y a derrière. Simplement, pour moi, c'est pas possible que tu rentres à 4h du matin. Alors, comment on négocie maintenant ? Parce que moi, mon besoin, c'est de te sentir en sécurité. Et d'apprendre à négocier. Alors, peut-être que la première fois, il va vous regarder avec des yeux comme ça, en disant « qu'est-ce que tu me veux ?» D'accord ? Mais c'est aussi un apprentissage, là aussi. Et d'accueillir le besoin, d'exprimer le vôtre, peut permettre ensuite de négocier. Comment on fait ? Pour que ensemble ça fonctionne. Ça va ? Quand ça fonctionne pas, qui parle ? J'ai pas vu. Oui ? Après négociation ?
À un moment donné, ben par exemple, l'heure de rentrée n'est pas respectée. Alors, comment réagir ?
On le frappe. Ça parce dépend de là, sa taille.
Un grand désarroi. Oui. Une grande déception.
Oui, je comprends.
Et puis, c'est pas comment... Voilà, souvent c'est difficile. C'est d'autant plus difficile vu qu'il y a eu la négociation.
Oui. Ce sont des tricheurs. Ils filoutent à fond. J'utilise souvent une idée qui ne va peut-être pas vous plaire. En général, je ne me fais pas que des copains quand je dis ça. Il y a une idée que l'adolescent, il obéit parce qu'il le veut bien. Oui, je sais. Ne me détestez pas tout de suite. L'adolescent obéit parce qu'il le veut bien. Et l'obéissance, vous ne l'obtenez pas par la force, ni par le poids que vous allez mettre dans la manière... De poser une règle. L'obéissance, vous allez l'obtenir par le respect, par l'écoute, par le lien que vous avez fait en amont. Si vous le respectez, si vous lui donnez la possibilité de vivre des choses chouettes, tout en lui donnant aussi des limites, parce que c'est important pour lui, si vous redonnez du sens aux choses, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de dire bon, ben, non, je ne veux pas que tu fasses ça, point barre. Il y a aussi l'idée de dire ben, voilà ce qui est important pour moi, voilà pourquoi je te pose ces limites, hein, de donner du sens par rapport à ce que vous estimez être important. D'accord ? Donc tout ça, ça va créer une relation qui va donner envie à votre adolescent de vous obéir. Mais au fond, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas par la force. Ou alors vous l'attachez, mais ce n'est pas très efficace, en tout cas pas sur la distance. Donc oui, c'est difficile. Et s'il ne veut pas rentrer, c'est à part lui envoyer les flics, je ne vois pas. Après, il y a la négociation qui est de continuer, tout en restant dans l'idée que je ne peux pas le soumettre. C'est un individu. Ah, la punition. Est-ce que ça marche ? Ben si ça marche, continuez. Non mais sérieux, enfin je dis en souriant, mais absolument, absolument, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a une espèce de courant aujourd'hui qui veut dans l'éducation qu'on ne punit pas. J'ai vu un bouquin d'ailleurs, Éduquer sans punir, il faudrait que je le lise parce qu'il a l'air d'être très bien. Mais cela dit, je trouve intéressant de ne pas rentrer dans les systèmes de punition, etc. Si on arrive à faire autrement, je vous le souhaite. Mais j'aimerais qu'on fasse la différence entre la punition et la sanction. C'est quoi une sanction ? Est-ce qu'une sanction, c'est une punition ? Une sorte de punition. D'accord ? C'est plus fort que la punition, en intensité. Ouais. Ah. Non, je ne voulais pas me faire détester, mais en général, les parents n'aiment pas entendre ça. Qui est cette idée que l'adolescent obéit parce qu'il le veut bien ?
Alors, je vais raconter une anecdote, en l'occurrence. J'ai des enfants, j'en ai eu 4, et 20 ans plus tard, mon fils aîné me dit « Maman, je t'ai obéi, mais aujourd'hui, je te dis que je n'étais pas content de t'obéir. » Donc, il l'a fait parce que ça... Vraiment, ça lui semblait bien de m'obéir à ce moment-là. Je vais vous dire ce que c'était. Je n'avais pas apprécié une critique de cinéma et que je pensais que ce film n'était pas bon pour mon fils et je ne lui ai pas permis d'y aller. Il a obéi. 20 ans plus tard, il me le reproche. Mais je suis ravie qu'il le fasse 20 ans plus tard.
Merci pour ce partage. Alors, la différence entre la sanction et la punition ? C'est intéressant. Hein. Une sanction, c'est une conséquence à une action. Mais c'est une conséquence aussi bien positive que négative. Une sanction, on sanctionne des études réussies par un diplôme. Et on sanctionne un vol par de la prison. Donc une sanction n'est pas une punition. La punition dans la sanction, c'est que la moitié. Mais il y a aussi l'aspect positif. Il y a aussi. Pardon ? C'est une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. On sanctionne des études réussies par un diplôme. Moi, je trouve fantastique cette idée. Et au fond, la notion de punition, la notion de sanction ne revient que quand on est dans le négatif. Mais on en revient à la notion de valorisation. C'est-à-dire, quand vos gamins font des choses chouettes, bah, allez-y, valorisez. Donc, utilisez la sanction positive, qui va aussi donner du sens à la sanction négative. Donc, cette idée de conséquence qui va donner du sens aux choses. C'est-à-dire, c'est quand je ne vais pas à mon travail, eh ben, je prends le risque de le perdre. Et parfois, je le perds. Ça, c'est une sanction. Et ne pas punir, ne pas sanctionner, mais aussi bien positivement que négativement, c'est donner le message aux adolescents qu'il n'y a pas de conséquences à leurs actes. Mais positive ou négative, les deux. Donc quand ils font quelque chose de bien, vous dites « ouais, ça va, super », comme si c'était normal. Hein, c'est normal d'avoir des bonnes notes à l'école.
On va pas te dire bravo en plus. Hein ? C'est normal de faire son lit. Bah ouais, c'est normal de ranger sa chambre. Comme si c'était normal. Mais qu'est-ce que ça coûte que de dire bravo, merci, super, j'aime bien quand ta chambre est rangée. Je suis contente quand tu me ramènes une bonne note. Sentez ça ? Donc c'est important, cette notion de sanction, mais aussi bien positive que négative, pas être constamment dans le négatif. Genre, on commence à dire un truc que quand ça ne va pas, quoi. C'est décourageant. Donc oui, je crois à la punition, mais je crois aussi à la valorisation. C'est donner des sanctions au comportement de vos ados. Ça va ? On augmente la punition.
Il ne tient pas compte de la punition. Donc, est-ce que vous augmentez, disons, ou par exemple, vous confisquez autre chose, ou bien vous prenez, ou vous augmentez la punition.
Non, je ne sais pas si
il
j'augmente.
Il se referme toujours plus.
Ouais. Je ne sais pas si j'augmente la punition. Après, la question, c'est d'abord, c'est au cas par cas. Je suis navrée, j'ai pas de recette magique qui marche pour toutes les situations. Ça dépend de la situation, ça dépend de l'adolescent, ça dépend de vous, ça dépend du comportement. Ce qui est difficile, c'est d'éviter de rentrer dans l'escalade. Donc, c'est vrai que pour autant que faire se peut, d'utiliser des outils de communication autour de « mais au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est-à-dire que tu as désobéi, j'ai donné une sanction, tu désobéis à nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est dans l'ouverture du dialogue, plutôt que dans l'expression de la colère. Autant que faire se peut.
Donc le dialogue s'arrête immédiatement, pas que justement qu'il poursuit. On aimerait qu'au moment où on donne une punition, par exemple, pour éviter l'escalade, que le dialogue s'arrête direct, qu'il accepte. Puis
On aimerait bien, mais non. Enfin, je veux dire, vous avez en face de vous un individu qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'a pas envie de vous obéir, hein, comme vous disiez, qui n'a pas envie d'obéir, et puis qui va essayer de négocier. Hein, c'est...
Comme elle le disait, il a rappelé 20 ans après, donc c'est bien ça.
Mais oui, s'il s'en rappelle 20 ans après. Après, c'est bien sûr qu'on aimerait qu'ils ne rentrent pas dans la négociation à la limite du marchand de tapis. Hein. Souvent, ils rentrent là-dedans en disant « oui, mais non, mais si », etc. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est revenir dans le jeu, hein, de l'autorité du jeu, hein, de dire « j'ai décidé ». Après, ça dépend de l'âge aussi. Hein. S'il a 17 ans, ce n'est pas la même chose que s'il en a 13. Ça dépend de chaque situation.
Si à 13, il réagit comme quelqu'un de 17, on est mal.
Mais là, alors, là, franchement, à 13 ans, je vous encourage à vraiment rentrer dans le jeu, mais dans un jeu ferme, c'est-à-dire de dire, mais là, c'est moi qui décide. Mais dans l'autorité et dans l'authenticité, c'est-à-dire non pas dans la colère. Ce qui est souvent difficile, c'est que quand vous êtes fâché, et à juste titre, vous allez... Qu'est-ce qu'il fait l'ado ? Lui, il enregistre qu'au fond, vous êtes en train d'exprimer votre colère. Du coup, il ne prend pas le message au sérieux. Oui. C'est... Ouais. Oui, par exemple, c'est une des stratégies. Et ce qui est important, c'est que si... par l'expression de votre émotion, vous lui permettez de disqualifier ce que vous dites au fond, en le mettant de côté, en disant « ouais, mais de toute façon, elle a dit ça parce qu'elle était fâchée. » Vous voyez l'idée ? On fait ça, nous, hein, en tant qu'adultes. Ouais, mais quand il sera calmé, ça ira mieux. Je ne vous ai jamais dit ça ? Ben, moi, si, en tout cas. D'accord ? Mais les ados, ils font pareil. Donc, si vous êtes dans l'expression de votre colère... Le gamin, il va dire, ouais, mais bon, quand elle sera calmée, ça ira mieux. Ce qui est important par rapport à ça, c'est d'être dans l'authenticité, c'est-à-dire d'exprimer de manière réfléchie des choses que vous avez, dans lesquelles vous êtes en accord et que vous allez agir. Sentez ça. Et au fond, ce que vous faites, c'est-à-dire quand vous dites, je ne suis pas d'accord, c'est bien, c'est bien. faites-le au bon moment, avec le bon ton, dans la bonne intention. Eh oui. Ah, la spontanéité. La spontanéité. Souvent, on me dit ça. Souvent, on me dit, oh là là, mais il va falloir que je commence à réfléchir. Oui, je vous confirme. Oui, je vous confirme. Je vous confirme. Si vous continuez à faire, ça c'est une phrase que j'adore, je vous la donne, un peu plus de la même chose donne un peu plus du même résultat. Donc si vous voulez, si vous continuez à faire la même chose que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, eh bien vous allez obtenir la même chose. Donc évidemment, il va falloir faire quelque chose de différent. Vous vous souvenez, on n'aime pas le changement. Hein, ben, vous non plus, vous n'aimez pas le changement. Mais là, il va falloir changer de stratégie. Si vous voulez obtenir des résultats différents, changez de stratégie. Et ça demande, effectivement, de réfléchir. Quand on est en automatique, c'est facile. On s'énerve en automatique, on pose des limites et des punitions en automatique, et on obtient des résultats automatiques. Là, moi, je vous suggère de faire autre chose. Alors oui, ça demande de réfléchir. Ça demande d'être un peu moins spontané, momentanément. Il n'y a rien de plus acquis que ce qui nous paraît naturel. Oh, ça faut que j'explique. Est-ce que marcher pour vous, c'est naturel ?
Sauf toi.
Sauf pour toi. Est-ce que marcher vous paraît naturel ? Oui. Est-ce que vous avez toujours su marcher ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez appris. Vous savez, le bébé, il commence, enfin, le petit loulou là, commence à courir à quatre pattes. Donc il va partout, super rapide, super efficace. Et puis un jour, il se rend compte que ce qui est vraiment au fait important, ben, c'est à hauteur un peu plus haute. Donc il va falloir se lever. Il va falloir se lever. Et puis il se dresse sur ses pattes, mais là, sur les deux pattes, il est beaucoup moins bon que sur quatre. Et l'enfant, à cet âge-là, il a déjà un programme à l'intérieur qui lui dit ben, il va falloir que tu passes par une période où tu seras moins bon, parce que le jour où tu auras appris à marcher sur deux pattes, eh ben, tu seras encore plus performant. Donc c'est ça cette idée, c'est-à-dire que pendant un certain temps, peut-être vous serez moins bon sur deux pattes que sur quatre. Mais que si vous voulez vraiment améliorer la performance dans les relations avec vos jeunes, avec vos ados, eh ben, il va falloir accepter ça et de devoir réfléchir pendant un certain temps, de dire comment je vais pouvoir réagir dans une situation comme celle-là. Si je suis en automatique, je vais obtenir les mêmes résultats. Bon, d'accord. Alors, de temps en temps, ça va vous échapper. De temps en temps, ça va venir. Et puis, vous allez brailler. Et puis voilà. Et puis, c'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. Et puis, un jour, vous allez dire, tiens, j'ai fait différemment. Ça a donné un résultat différent. Chic. J'ai trouvé une bonne piste. Vous voyez l'idée ? Mais pendant un temps, c'est pas très confortable. C'est un peu le bloc de glace, hein. C'est une période de liquéfaction, là, c'est pas très drôle. D'autres questions ?